Ok, Seigneur, merci pour ce soir. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu as toujours une réponse. Et ce soir, enseigne-nous sur un sujet très précis. Aide-moi avec les applications, avec l'enseignement. On est soif, on est faim, on a besoin d'être nourri. On a besoin d'écouter ta voix et pas mienne. Merci Seigneur, merci. Amen. Ok, c'est commencé ce matin avec la dévotion de Oswald Chambers. Je vous encourage, si vous avez jamais lu Oswald Chambers, lui, il a écrit une très bonne dévotion pour une année. C'est possible de relire année après année. Et c'est disponible en français. Oswald Chambers. Je peux envoyer le lien en anglais. Mais ma femme, je crois, les autres, ils ont en français aussi. Donc c'est possible. Aujourd'hui, il a dit les silences de Dieu. Et c'était très intéressant parce qu'il a dit le silence de Dieu est une réponse. C'est pas que l'absence de communication. Silence. Robert, pose une question à moi. Juste une question.
Est-ce que tu crois en Dieu?
Est-ce que j'ai donné une réponse audible?
Non.
Mais est-ce que j'ai communiqué quelque chose?
Oui, un petit peu.
Ok. Voir que Dieu peut communiquer en beaucoup plus. On utilise dans une façon à terre. Mais voir que Dieu peut aller beaucoup plus loin de ça. Et des fois, les silences de Dieu sont une réponse. En fait, le silence de Dieu est une réponse, définitivement. Et ce soir, je voudrais communiquer, si je peux, pendant le silence, je voudrais communiquer que notre Dieu, il y a certains exemples de les silences dans la Bible et l'importance du silence. Et juste pour lancer l'introduction en plus, dans les relations, silence est important. Dans un mariage, le silence est important pour l'époux et l'épouse de discerner certaines choses. Et des fois, c'est une manifestation d'une intimacy, une qualité intime dans la relation. Une mère peut voir avec son enfant. L'enfant peut être crié, mais des fois, on peut voir tout de suite. Ma femme peut discerner par ma visage sans une expression de la bouche. Certaines émotions, certaines choses. Comment plus Dieu peut communiquer avec nous? Et nous avons toujours, dans notre, des fois, manque de maturité et dans notre impatience, un désir de dire, Seigneur, pas. Je rappelle une fois une femme étudiante à MBCNS en États-Unis. On était dans la bibliothèque en train d'étudier. Elle a tourné, elle a cherché l'aide, elle dit, aide-moi! Comme ça, avec frustration. Fois comment? Parce que je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Mais de voir que des fois, on peut être comme ça. Et Dieu est un Dieu qui communique dans une façon et on peut apprendre la communication avec lui. Et le silence, des fois notre silence communique quelque chose au Seigneur aussi. Parce qu'on est un peuple qui sont brillants. On parle sans cesse, on exprime sans cesse, on est dans un monde brillant. Et la chair est toujours une énergie. Et des fois, on utilise cette énergie de rompre le silence. En bref, je vais terminer ça juste de dire que c'est important de prendre une place pour le silence. Et Dieu utilise le silence aussi. Et le premier, et ça c'est important, Genèse chapitre 16, verset 16. Genèse chapitre 16, verset 16. Ok. Donc, Agar, serviteur de Sarah, a enfanté un fils à Abraham. Donc, il était le père Elle était la mère. C'était une substitution. C'était pas le plan de Dieu. Verset 15 du chapitre 16. Et Abraham donnait le nom Ishmaël au fils de Agar, lui enfanta. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfantait Ishmaël à Abraham. Fin de chapitre. Chapitre 17. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dans certaines versions, sois parfait. Entre les deux versets, nous avons une pause de 13 ans de silence. Le silence de Dieu est un malcontentement. Si on peut utiliser cette expression, il n'était pas content. Mon content, mécontentement. Donc, il est cet mécontentement de Dieu et c'est exprimé par le silence. Ça veut dire pas une relation. David est un exemple un peu plus révélateur pour nous. 2 Samuel chapitre 11. Donc, voilà. Nous avons cet événement, cette histoire avec Bathsheba. Et à la fin, elle était enceinte. Donc, verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, donc pour chercher Bathsheba. Donc, il est là, reculant dans sa maison. Elle devient sa femme, donc il la marie, et lui enfante un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel était en colère. Verset 1 du chapitre 12. L'Éternel envoie Nathan vers David, et Nathan vit à lui, et lui dit, il avait deux hommes, un riche et l'autre pauvre. En train de faire ici, c'est une pause de peut-être une année. Et dans cette année, nous avons, si on lit les versets, aucune idée qu'est-ce qui est en train de passer. Mais quelque chose est en train de passer. Première chose, David était orgueilleux. David, il n'a pas caché cette péché, c'était évident, parce que les soldats de pouvoir, il y a quelque chose en train de passer. Bathsheba était présente, donc les gens commencent à poser des questions. Mais les gens, ils ont accepté, dans un sens, ce que David a fait. Mais Nathan était conduit par le Seigneur une année après. Ça veut dire, Dieu a laissé un silence avec David et Abraham, mais il n'était pas content. Il n'était pas qu'il a accepté. Et quand nous faisons quelque chose dans nos vies et Dieu n'est pas content, on peut commencer à sentir une lourdeur. Ça commence avec, maintenant, une séparation, silence avec Dieu. Je pense que j'ai réussi. Et dans le court terme, je pense, waouh, les choses passent bien, j'ai réussi à devenir mes projets, mais les choses commencent à être plus compliquées. De plus en plus, il y a des niveaux et des couches de complexité. La joie, qui est une manifestation normale dans la vie d'un croyant spirituel en train de marcher avec le Seigneur, commence à perdre. La personne commence à chercher pour le plaisir, pour une substitution de quelque chose qu'il a perdu. Donc, peut-être l'alcool est un exemple, peut-être les drogues est un exemple, peut-être juste une vie un peu plus hédonistique, de chercher d'avoir quelque chose parce qu'il y a un manque. Et on note que David est dit en Psaume 32, et ça c'est très intéressant. Psaume 32, c'est un indicateur, les choses en train de passer. C'est bien qu'il écrit cette psaume. Verset 3, version seconde. Tant que je me suis tu, mes os sont consumés, je gémissais toute la journée, car la nuit et le jour, ta main, et c'était apaisant, très lourd sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. C'est là. Ça veut dire, il est, on peut dire, j'ai entendu Pasteur Stevens de dire ça, il est commence à être une discipline qui était sur le corps. Ça veut dire, il est proche d'être puni, non pas puni, d'être discipliné jusqu'à la mort. S'il a pas accepté ce que Nathan a présenté, c'était la forme de repentance. C'était une offre, une opportunité de repentir. Et il a fait. Il a accepté la façon que ce message est communiqué dans une façon créative. Mais s'il a pas fait, Nathan a dit, tu vas mourir. Tu as pris la bonne décision. Et David, tout de suite, il retourne. Il est spirituel tout de suite. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire énormément beaucoup de choses pour repentance. La repentance, c'est un change de direction, un change de cœur. Mais la chose intéressante de savoir ici est que son corps est en train d'être affecté par le Seigneur. Donc, physiquement. Et il a dit, mes os sont plus secs. Donc, il commence à avoir, on peut dire, une sécheresse dans sa vie, physique, mais probablement spirituelle. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es un croyant spirituel en train de marcher avec le Seigneur, en fond avec le Seigneur, et tu tout de suite fais quelque chose qui commence à manifester. Donc, sécheresse, perte de paix, problème de repos. Est-ce qu'un manque de sommeil peut être affecté? Est-ce que des fois, on peut voir aussi avec Nathan, il a répondu très rapidement de dire que l'homme dans cette histoire créative qui était une façon de présenter son péché, et il a répondu tout de suite, l'homme doit mourir. Ça veut dire, on peut voir, il est jugemental. C'était très vite à juger. Est-ce que l'amour est maintenant se foider? En fait, il a un manque de chaleur dans son cœur. Maintenant, il, bien sûr, il est en contrôle du royaume. Mais la question maintenant est, est-ce que à cause de cette silence, à cause de cette manque de connexion, il est maintenant froide, pas de joie, visage un peu plus dur. J'ai vu ça. J'ai vu quelqu'un qui était en train de marcher avec le Seigneur, parti, en isolation dans sa vie, retourne, sa visage était gris. C'était vraiment un manque de lumière. On peut voir qu'il y a un manque de connexion avec Dieu. Aussi, très troublé. Très, très troublé. En train de tourner dans un rond émotionnellement. Et maintenant en train de dire, j'ai fait des choses terribles. Mais il ne peut pas accepter le pardon que Dieu accorde. Il retourne à l'église, mais toujours fermé dans cet esclavage, en fait, avec une accusation du diable. Donc, voir comment Dieu peut utiliser le silence pour nous amener à la réalité de « Wow, on est passé côté quelque chose et maintenant on est vraiment dans un grand... On est dans les dégâts, en fait, on est vraiment dans des problèmes. » Le Seigneur peut pas peut-être dans quelque chose comme ça corrige tout de suite. Est-ce que nous avons essayé de corriger quelqu'un qui est clairement en train d'aller dans une autre direction et on dit, écoute, hein, écoute-moi. Non, non, c'est pas comme ça, tu peux pas faire. Et la personne va pas écouter. Aveugle, non, sourd. spirituellement. Et donc, c'est pas la peine de corriger la personne, c'est de laisser la personne de vivre les choses un peu, parce que ça, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec David et avec Abraham. OK, on va avoir un peu de silence. Je vais retourner en 13 ans ou un an et on va discuter. Comment tu vas, David? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es inspiré d'écrire plus de psaumes? Donc, le silence-là est utilisé de préparer le cœur, en fait, pour retourner. Mais le cœur peut être tellement méchant que ça va être plus dur et pas plus doux. Ça, c'est un mystère de l'iniquité. Dans le cas d'Abraham, dans le cas de David, le cœur était plus doux et préparé. Et si ce n'était pas le cas, David ne va pas répondre tout de suite et repentir. Mais il était préparé dans un sens parce qu'il est probablement désespéré. Il a essayé de trouver des solutions pour lui-même, mais il n'arrivait pas. Et maintenant, c'est la dernière chose, il est frustré, et Nathan est devant lui, et il comprend. Oui, Seigneur, je suis soumis devant toi. Silence est la lourdeur de le sens que Dieu n'est pas content avec moi. Pas de plaisir. C'est la vie est lourde et banale, et je commence. On connaît un homme qui était comme ça, Solomon. Solomon, lire Ecclésiaste. La conclusion arrive à la fin, chapitre 12. Mais tu vois, il a dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et rien n'était suffisant pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était un homme spirituel finalement, créé dans l'image de Dieu, un homme avec un nouveau cœur. Mais qu'est-ce qu'il cherche de faire? Faire des autres choses. Donc, il a passé des années et des années. Il était un jeune homme avec vigueur, mais après, à la fin, il était un homme qui était sage, mais aussi qui était, qu'est-ce qu'on peut dire, stupide? Un fou. Un old wise fool. Oui. Mais on comprend le sens que je voudrais communiquer ici. Il était jeune et sage et humble, mais il arrive à la fin de dire, j'étais complètement folle. Fou et folle aussi peut-être. Mais voilà. Donc le silence de, oui, parce que le péché peut nous amener à ça aussi. Je blague pas. Le silence à cause de cette déconnexion et Dieu a décidé, ok, on va laisser tomber. See you on the flip side, on peut dire. Donc, je vais te voir quelques années après. Deuxième silence. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Pour le temps, je pense que je ne vais pas lire tout, mais je vais brièvement aborder. Marc ou Matthieu? Ah, Marc 4. Oui. Marc. Oui. 4. Oui. Voilà. Jésus a dit, OK, on va passer de l'autre côté dans un barque. C'était le soir. C'est toujours le soir, j'ai noté ça. Pourquoi pas la journée, c'est mieux. Mais le soir, peut-être, c'est mieux. Moins de vent. Très bien. Mais dans ce cas, c'était pas vrai, parce que finalement, Jésus était en train de dormir. Et le vent commence à monter. C'était les conditions climatiques qui viennent de la Méditerranée, qui affectaient les orages dans cette région. Et sur le lac de Galilée, il y a les orages qui peuvent bouger très rapidement. Et c'était le soir, quelque chose commence à passer et le bar commence à être rempli avec l'eau. Et parce que Jésus a dit, on va aller, à l'encourager, il a dit, on y va les gars. Et les disciples sont tous dans le bac en train de passer. Donc, c'était la volonté de Jésus-Christ. Okay? Ça, c'est la première chose, il faut savoir ça. C'était pas une idée des autres, c'était lui qui a dit, on va le faire. Et elle a dit, on va aller de l'autre côté. Donc, c'est Jésus, Dieu lui-même qui dit ça. Maintenant, l'orage vient comme ça, la vague entre dans le bac et ils sont en train d'être submergés, presque sous, avec beaucoup de l'eau. Et c'est des pêcheurs, comme on a dit, expérimentés, qui ont vécu toutes ces années de ces vies sur ce lac. On connaît très bien ce lac. Ce n'est pas des débutantes. C'est vraiment les gens qui connaissent ces choses. Mais ils sont commencent à paniquer et ils sont « Wake up, Jesus! Jesus! Aide-nous! Au secours! Réveille-toi! Réveille-toi! » Et il a dit « Vous avez peu de foi. » Comme ça. Arrête et tout est calme. Silence. Le silence de Dieu parce qu'il semble qu'il dort dans les orages de la vie. Silence. C'est les difficultés qui viennent. Aujourd'hui, c'est calme. Et demain, nous avons une facture qui vient par les impôts pour 20 000 euros ou 20 000 francs suisses. Après ça, nous avons comme Job une histoire de combinaison, c'est l'orage parfait. Un voisin qui vient et dit que quelqu'un a volé la maison, ta maison a été vidée. Après ça, la voiture a été brûlée parce que c'était écrasé par quelqu'un qui a volé la voiture. Bang! Donc, toutes ces choses sont en train de passer au même moment. Et après, nous avons le médecin qui dit, tu as une condition sérieuse, il faut aller à l'hôpital. Donc, on est submergé très rapidement. Si c'était une chose, et juste une chose, c'est possible qu'on peut essayer de gérer, oui. Mais c'est pas juste une chose. Parce que Dieu est en contrôle dans cet orage. Il ne veut pas qu'on arrive avec notre propre force de gérer les choses. Le bac va être presque en train de tomber. Presque. Ça veut dire qu'on pense qu'on va mourir, mais on ne va pas mourir. Parce que le Seigneur, il est dans le bac aussi, et il est le Fils de Dieu. Mais le silence, parce que sauf pour en train de dormir, nous n'avons aucune connexion, aucune évidence que Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu est dans le bac et il est présent avec nous. Ça veut dire pour nous, dans nos problèmes, le Seigneur est là. Il est avec nous. Donc, est-ce qu'on va arriver jusqu'à la traverse et cet orage? Oui. Parce que si Dieu n'était pas là et c'était notre propre idée de traverser le lac nous-mêmes, oui, je peux dire peut-être on est en train de subir les conséquences de mauvaises décisions. Mais ici, c'est le Seigneur qui a décidé ça. Et dans cet silence, les disciples sont paniqués et commencent à crier. Et après, ils accusent Jésus. C'est une reproche. « Seigneur, tu as nous laissé de mourir ?» Comme c'est une accusation, en fait. Et le Seigneur, il n'a pas réagi. Il a simplement... Comme ça. Vous avez peu de foi. Pourquoi? Parce que s'il considère que le Seigneur utilise ça comme un test afin qu'on peut grandir, c'est une forme de test de sanctification. Avec tout ce qu'on est en train de passer au même temps, la seule solution est de tourner vers lui et dire, OK, tu es en train de dormir, mais je sais que le Père est en contrôle et il va parler avec le Fils qui est en train de dormir ce moment et tout va passer bien et on va arriver jusqu'au bout. Mais on va rater l'examen à juste presque à la fin, peut-être, c'est mon avis, pas dans le clairement écrit, mais peut-être la solution, la délivrance est juste en train de déclencher, mais ils ont réagi trop fort et trop rapidement. Peut-être c'est un cas d'attendre juste 2 minutes plus. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous avons dit, non, je ne peux pas supporter ça, il faut faire quelque chose. Donc on sort, courir dans la maison, en train de paniquer, ou dans un bureau, on va être pressé. Dans le bureau, dans la maison familiale, ou dans l'église, ou comme vous voulez, dans un supermarché. Et en train de paniquer, le Seigneur dit, wouh, attends juste une minute. Et une minute, et tout est résolu. Et on ne peut jamais comprendre comment c'était possible, mais c'était possible parce que le Seigneur a laissé tous les éléments d'être placés afin qu'on ne va pas utiliser notre propre intelligence. Proverbe 3, 5 et 6. Voilà le silence de Dieu, mais ce n'est pas l'absence de Dieu. Troisième. Nous n'avons pas un verset exact pour cet exemple, mais nous avons une période de temps. Malachie chapitre 4, les derniers deux versets, que Élie va arriver avant le grand jour de retour de Jésus-Christ, avant le retour de Dieu en fait, le Messie. Et ici nous avons la préparation pour le Nouveau Testament. Matthieu est le début. Entre Matthieu 1-1, entre Malachie chapitre 4, à la fin de le chapitre, et Matthieu chapitre 1 verset 1, nous avons 400 de silence. 400 de silence public. Ça veut dire rien en train de passer publiquement pour Israël. Mais est-ce que Dieu est en train de parler des individus? Oui, mais pas de Israël ensemble. Dans 400 sons de silence. Et donc, qu'est-ce que se passe en 400 de silence? Alexandre le Grand vaincre contre l'Empire Perse. Les Grecs populés partout et la langue franque et grecque dans l'Empire, maintenant, inclut Israël. Après une division, Alexandre le Grand meurt. Après, nous avons quatre généraux qui divisent l'Empire qu'il a créé. Et maintenant, deux généraux, deux dynasties en train de lutter pour Israël. Donc, Égypte dans le sud, Syrie dans le nord, et il y a une dispute entre les deux. Et Israël est entre les deux. Après ça, nous avons l'Empire romain qui arrive, et nous avons les Romains qui occupent Jérusalem, occupent Israël. Et nous avons roi s'appelle Hérode, qui était une marionnette qui est utilisée uniquement par Rome pour contrôler. Toutes ces choses sont en train de passer, et en plus, la révolte Maccabée, qui a passé à cause d'un un homme, un blasphème, qui a sacrifié un cochon et, qu'est-ce qu'on dit, édifié une construction d'un hôtel pour Zeus. Dans la place, dans le temple juif. Et qu'est-ce qu'on va passer? Explosion dans le sens spirituel. Les gens en colère et une rébellion contre ceux qui sont en train d'occuper Israël à ce moment, les Grecs. Donc tout est poussé et maintenant les Romains arrivent et on est dans la situation de Matthieu. Tout ce silence, on peut dire, mais qu'est-ce que se passe dans ce silence? Simeon était un homme, Luc chapitre 2, qui est attendu pour la consolation d'Israël. Il y a des gens en train d'écouter Dieu et en train d'attendre pour lui. Silence pour 400 hommes et Dieu est en train de préparer les cœurs qui comptent. Pas tous les gens attendent pour la même chose. Mais Simeon et Anna et tous les autres en train d'attendre pour le Messie et le Messie était devant eux. Et il a vu le visage de le bébé Jésus et dit, je veux le Christ. Je peux mourir en paix maintenant. Voir que ces 400 ans de silence étaient utilisés par le Seigneur de préparer le cœur. Est-ce que on n'est pas dans une situation uniquement comme ça, mais peut-être pour nous, Dieu veut que nous pouvons entendre et écouter et rester pour lui avec une attente que la promesse qu'il a donnée va être accomplie. Et c'est dans ce silence, on va dire, OK Seigneur, tu n'es pas en train de parler sur ce sujet que tu as promis, le salut de quelqu'un qui est proche de moi, par exemple. Pas de silence dans ce domaine, mais tu es toujours là. Donc je vais faire confiance dans les promesses que tu as faites et je vais continuer de marcher dans le quotidien en acceptant que le plan de Dieu est en train de dérouler. j'essaie pas de comprendre pour moi-même, de faire des raisonnements humains. Non, je vais marcher. Et dans cette 400 ans de silence, les gens peuvent traverser et arriver dans le Nouveau Testament et Jésus était là. Dieu est en contrôle. Le silence, il est là. 400 ans de silence. Prochain, point numéro 4. Matthieu chapitre 7, verset 23, Luc chapitre 13, 27 et 28. Le silence de séparation éternelle. On fait une place de beaucoup de bruit, beaucoup de prières, beaucoup de cris, beaucoup de supplications et rien va être écouté et exaucé. Parce que Dieu n'est pas là, sa présence n'est pas physiquement en enfer. Ça va être une place de séparation définitive, absolue, sans espoir. Et il va être des gens là-bas. Le lac de feu. Silence. Les gens, ils n'ont jamais accepté Christ pendant ses vies. Quand Dieu a présenté son évangile au travers d'un homme ou une femme qui marche avec Dieu, au travers des autres possibilités de communication, ils n'ont jamais accepté. Donc pour Dieu, il a dit, je parle, je cherche, mes bras sont ouverts tous les jours, mais les gens ne veulent pas, viens. Donc silence. Ça veut dire, il ne parle pas avec lui. Il y a un silence entre la personne qui est incrédule et Dieu. Et donc, Dieu peut dire, vous n'avez pas m'accepté, vous avez choisi de refuser, en fait. C'est une refusal. Et dans ce silence dans la vie que tu as cherché pour toi-même et tu m'as ignoré, je suis décelé, mais j'ai une seule option qui reste. Silence d'enfer. Et silence parce que Dieu ne peut pas parler à la personne, probablement. Parce que j'imagine que cette personne est centrée dans ses propres vies. S'ils sont centrés maintenant dans le monde, comment plus quelqu'un peut être tellement égocentrique dans l'enfer aussi. Hanté par toutes les images de la vie sur la terre, toutes les opportunités perdues. Mais c'est silence. Silence entre Dieu et la personne. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est pourquoi on évangélise. Et ça, c'est pas pourquoi on toujours proclame, publie l'évangile. Parce qu'on ne veut pas que ça, c'est le destin. On veut que les gens tournent vers Christ. Silence de l'enfer. Cinquième. Silence de la croix, je vais être court avec ça. Sur la croix, en Marc chapitre 15, versets 33 et 34, Jésus, après 3 heures sur la croix, c'est maintenant la 6e heure. Entre la 6e heure et la 9e heure, c'est normalement le temps qu'il fait plus chaud. J'ai noté ça en Espagne. C'était pas midi pile qu'il fait le plus chaud. C'est le temps que je commence à monter un peu plus après. Pourquoi que je dis ça? Que peut-être c'est la même chose en Israël. Qu'avec le chaleur entre midi et 3 heures l'après-midi, ça c'est la 6e heure et la 9e heure, obscurité, nuage, sombre, presque, je ne sais pas si les conditions climatiques exactes, mais pas de soleil. Et Jésus sur le croix, nous, honte, séparation de Dieu, séparation de Père. Donc pas une prévision de grâce, parce qu'il n'a aucune connexion avec le Père. Le Père a tourné le dos, il ne peut pas supporter de voir, parce que Jésus était fait péché pour nous. Ça veut dire qu'il a pris tous les péchés. Il n'était pas un pécheur, mais il a pris par substitution nos péchés. Donc il était adultère, il était fornicateur, il était homosexuel, il était lesbien. Je voudrais dire, il a pris pour chacun de nous notre identité orgueilleux, voleur, meurtrier. Tout ça était placé sur lui, mais il n'a pas fait des actes. Donc, avec cette substitution, il avait foi, soif, fatigue, épuisé, expérimenté une profonde tristesse et en train de voir des gens en train de le moquer. Le silence de le Père pour 3 heures. Il a dit, Psaume 22, Dieu, mon Dieu, pourquoi que tu m'abandonnes? Ça veut dire pas le Père, mon Père, non, il a dit Dieu. Donc ça veut dire séparation maintenant et distance et silence. Le silence de Dieu pour 3 heures afin qu'on ne va jamais expérimenter ça. Et on ne peut jamais imaginer parce qu'on a été né avec une séparation de Dieu. Et donc pour nous, on ne peut pas imaginer comment ça va être Dieu pour éternité, la deuxième personne de la Trinité, en train d'expérimenter une proximité avec le Père et aussi avec le Saint-Esprit pour éternité et dans un moment précis de 3 heures, séparation. C'est comme on est des amis avec quelqu'un qu'on connaît pour des années et dans une minute, c'est comme la personne tourne le dos et dit je ne parle plus. Comment ça va sentir pour nous? Comment je vais expérimenter? Quelles sont les émotions quand je discerne ça? En plus, infiniment, comment Jésus a expérimenté ça? Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont les pensées qu'il avait quand il avait ces 3 heures de séparation? Et chaque minute semble comme une heure. Est-ce qu'on a expérimenté ça? Le temps passe vite pour nous, très rapide. Mais peut-être dans un moment difficile, c'est comme chaque minute, c'est comme une heure, tic. Et on est en train de regarder l'horloge. Mais ça ne bouge pas. Ça reste. Et on dit, oh. Et on est en train d'attendre, d'entendre. Et en plus, en train de souffrir. Silence. On est tellement familier avec Jésus-Christ et on dit Amen, il a me sauvé les péchés sur le croix et tout. Mais est-ce qu'on a considéré de ce niveau qu'est-ce qu'il a vécu pour nous afin qu'on peut pas, on peut vivre la vie éternelle? Et comment ça va nous pousser de pas être familier avec notre foi, ni avec mes frères et sœurs, ni avec l'Église, ni avec lui pour tout ce qu'il a fait pour nous? Donc, ça amène un niveau de reconnaissance de dire, wow, tu as vraiment fait ça pour moi. Tu as fait ça pour moi. Et le dernier, le une journée, le samedi de Pâques, Jésus est enterré. Il n'est pas ressuscité pour le moment. Les disciples enterrent en train de cacher parce que peur de les juifs religieux. Et Jésus, ils sont déçus. Pierre, complètement écrasé, déçu de lui-même. Et après tout ce bon espoir, on ne comprend pas pourquoi Jésus, qui est le Christ, doit mourir. C'est la fin de notre désir de voir l'Empire romain enlevé et nous pouvons commencer de nouveau avec le Messie qui va régner. C'est une journée. Donc il est enterré avant le coucher du soleil le vendredi. Donc vers 6 heures avant ça. Et après ça, nous avons samedi jusqu'à dimanche matin, juste avant l'aube, ça va être avant 6 heures, près de 6 heures. Et donc, entre ces temps, je pense que les disciples ne peuvent pas dormir. Est-ce que quelqu'un peut dormir après avoir vécu ça? probablement de sommeil, d'une énorme fatigue après tout ce qu'ils ont vécu. Mais je pense les pensées en train de passer, ça c'est un silence. Parce que Jésus n'est pas à ce moment, il est toujours dans le tombeau. Mais très bientôt, il va être ressuscité par le Saint-Esprit. Et après ça, on a la vie et on a la vision. Et les disciples, ils passent par un passage qui est difficile. On ne va jamais expérimenter ça. Mais en application, est-ce que des fois Dieu fait des choses et on dit, est-ce que ça c'est vraiment notre Seigneur qui a fait ça? C'est comme Jésus est différent. Comme il est à une distance. On est en train de passer par un chemin qu'on n'a jamais vécu avant. C'est une nouvelle, c'est le terrain inconnu pour nous. Et il faut passer par ça. On ne peut pas continuer de vivre la même chose jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On ne peut pas. Et il faut accepter qu'on doit passer par ces moments qu'on va être dutif. Dutif? Dutif. On va douter. Et on va dire, on ne comprend pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de passer, mais il est le Seigneur, il a le droit de faire comme il veut les choses. Mais on doit tenir debout avec lui, on va approcher lui, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire parce que, comme on a dit, ses voix et ses pensées sont infiniment au-delà de nos pensées et nos voix. On ne peut pas prévoir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Il est imprévisible. Et la façon de l'esprit est imprévisible, comme on a dit en dimanche, Jean chapitre 3. On ne peut pas calculer le vent, la direction, on entend le vent, mais on ne sait pas quelle direction, on ne peut pas planifier tout ça. Tout pour dire, dans ce silence, faites attention d'approcher le Seigneur. Et de dernièrement, juste pour dire quelque chose, dans le silence, on ne va pas vécu le silence éternel. Et on ne va probablement pas vécu le silence sur le quoi. J'espère, on ne va pas. Mais dans le silence, les choses restent les mêmes. On continue de marcher avec le Seigneur dans le silence. On marche, on fait confiance. Les promesses du Seigneur et les données sont toujours là. Le Seigneur ne change jamais. Ses voix sont imprévisibles. Le silence est peut-être imprévisible, imprévisible, mais le Dieu est toujours sur le trône. Il est toujours un trône de miséricorde et grâce. Il est amour. Il c'est pas il dégage amour, il est amour et son amour est toujours pour nous. On est sauvé et on va jamais perdre ça. On va passer par les saisons difficiles, mais le Seigneur est toujours avec nous. Donc, dans les silences, c'est une marche par la foi, pas par la vue. Donc, soyons fermes, assurés, continuez jusqu'au bout, finir bien. On va finir notre course avec joie. Que Dieu vous bénisse.